sur le long terme, le livret A, je vais pas dire c'est de la merde, mais je le pense très fort quand même. Hein.
Ok,
J'ai du
ouais,
mal
tu
à le
l'as dit quand même.
penser.
Hein.
C'est un instrument de court terme, le livret A. Ça consiste à stériliser l'épargne des Français. Le livret A, c'est un poison pour l'économie française et c'est un poison pour l'épargne des Français.
Bienvenue dans Finary Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finary, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finary.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce 12e épisode, nous avons l'honneur de recevoir le gérant d'actifs star, Yves Chouefati. Président fondateur de la société de gestion Tobam, Yves est le gérant phare des stratégies de diversification en France. Il vient aujourd'hui nous partager ses convictions et les bonnes stratégies pour investir efficacement contre l'inflation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue Yves.
Bonjour Monir, bonjour à tous.
Alors pour ceux qui ont déjà assisté à un Finary Talk, il y a eu un gros changement puisqu'on est en direct avec l'invité. Et ça fait quand même plaisir. Donc déjà, merci d'être là Yves.
Merci à toi.
Merci de t'être
Super.
déplacé. Merci aussi d'être notre cobaye sur ce coup-là. On va tout faire pour que ça se passe parfaitement. On est vraiment ravis de vous recevoir dans notre studio à Paris, dans le 2e arrondissement, pour un Finary Talk dédié à l'inflation, un sujet chaud, un sujet brûlant. Avant de passer à ce sujet, avant de parler de vous, Yves, de votre carrière ou de ta carrière, de ton parcours, aussi de tes opinions sur la crypto, sur les actions et évidemment de l'inflation, et ensuite de prendre vos questions, on va parler de Finary qui organise ce talk. Donc on vous a préparé quelques slides pour un peu parler de nos actualités. Donc les nouveautés, donc pour ceux qui ne connaissent pas Finary, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Finary? J'en doute, mais bon, voilà, histoire d'être sûr, on va quand même rappeler ce que c'est. Finary, c'est une app qui permet de suivre votre patrimoine. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Donc c'est assez important à mettre en place, c'est gratuit et c'est extrêmement exhaustif. On n'a pas chômé pendant cet été, on est parti en vacances, mais pas trop, et on a lancé trois grandes fonctionnalités dont je voulais vous parler. La première, c'est Predict. Pourquoi on a lancé Predict? Parce que on a interrogé nos clients, on leur a demandé quel est votre objectif financier principal, et le retour massif qu'on a eu, c'est j'ai envie d'être libre financièrement. J'ai pas envie de partir à la retraite, forcément, j'ai pas envie d'arrêter de travailler, mais j'ai envie d'être libre et de faire ce que je veux. Et en leur demandant s'ils y arrivaient, comment ils faisaient, comment ils planifiaient ça, concrètement, ils n'avaient pas d'outils pour le faire, c'était beaucoup dans Excel, c'était beaucoup un peu au talent, quoi. Donc Predict, en fait, c'est une fonctionnalité qui se base sur la méthode de Monte Carlo, que tu connais très bien, Yves, et qui permet donc de simuler, de définir un objectif d'une part, et ensuite de simuler des scénarios et de donner concrètement l'âge d'indépendance financière en se basant sur un indice de confiance qu'on a défini. Et ça, c'est accessible en un clic dans une application sans aucune connaissance mathématique préalable. Donc, c'est une fonctionnalité qui vient de lancer. C'est déjà la fonctionnalité la plus utilisée de Finary. Et on va lancer des optimisations qui permettront donc à chacun de mettre en place des stratégies, enfin des petits ajustements pour aller plus vite vers l'indépendance financière. Donc, Predict, disponible dans l'app gratuitement, à tester vraiment à tout prix. Deuxième fonctionnalité hyper intéressante, c'est que on n'investit pas tout seul. Généralement, on investit avec sa femme, avec son mari. On a peut-être des enfants. Le patrimoine, du coup, il est divisé entre plusieurs personnes. Dans Finary, c'était un grand saut. Tout était réuni. C'est pour ça qu'on a créé le mode famille. Le mode famille permet de répartir son patrimoine entre les différents membres et permet à chacun, surtout, de se connecter à Finary et d'avoir sa vision à lui de son patrimoine, la vision globale. Et donc, voilà, on peut vraiment bien répartir les différents œufs entre différents paniers et surtout on peut s'amuser à faire plein de choses différentes. Le mode famille ouvre la porte évidemment au mode holding puisque à terme on pourra avoir sa holding, sa femme ou son mari, ses enfants et avoir une visibilité vraiment totale et surtout la partager après avec des partenaires, peut-être avec des notaires, des avocats, des banquiers pour encore une fois avoir un état des lieux le plus juste possible. Donc le mode famille aussi sur application exclusivement sur Android pour l'instant, ça arrive sur iOS très bientôt. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est Finary Plus. Finary, on a lancé l'année dernière sur App. On ne croit pas dans un modèle où tout est gratuit, parce que si tout est gratuit, on est le produit forcément. Donc, évidemment, on connaît Google, Facebook, c'est génial, mais ces gens-là gagnent de l'argent avec nos données. Nous, on ne fait pas ça, on ne vend pas les données, on ne les partage pas. Donc, on a un business model qui repose sur l'abonnement. L'abonnement était disponible sur web. Il est déjà disponible sur Android et il sera bientôt disponible sur iOS. Donc ça, c'est les nouveautés de l'été. Mais du coup, vous allez me demander, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc on ne va pas partir en vacances, on va continuer. Ça ne s'arrête jamais en startup, c'est un éternel recommencement. On va travailler sur plusieurs chantiers, mais je voulais vous en citer trois. Première chose, les optimisations de prédict. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc on va aller beaucoup plus loin et on va proposer des optimisations personnalisées qui vont permettre d'atteindre son indépendance ou d'autres objectifs d'ailleurs plus rapidement, peut-être en prenant moins de risques aussi, en ajustant le risque return. Donc plein de choses côté prédict qui sont prévues. On a aussi prévu de lancer une classe d'actifs dédiée, une catégorie dédiée au crowdlending, qui est un thème qui est fort. L'immobilier, c'est comme une classe d'actifs phare en France. Le crowdlending a pris beaucoup d'ampleur. On ne lui a pas donné beaucoup d'amour sur Finari. On est en train de rectifier le tir. Et enfin, en restant dans la thématique immobilière, lorsqu'on demande un emprunt, le banquier va toujours nous envoyer des formulaires qui sont très longs. On va la remplir 15 fois pour 15 banques différentes et on va devoir faire l'inventaire de son patrimoine. Très bientôt dans Finari, en fait, vous allez appuyer sur un bouton et on va vous sortir un PDF magnifique avec vos actifs, vos passifs, vos revenus. Vous allez pouvoir en plus renseigner des informations sur si vous êtes marié, si vous avez d'autres revenus, etc. Votre job également. Et vous allez pouvoir donner ça gentiment aux banquiers et économiser beaucoup de temps. Donc ça arrive très bientôt. Donc les investisseurs immobiliers et tous ceux qui ont besoin de ce genre de rapport, ça sera bientôt en un clic dans l'application web. Si vous n'avez toujours pas Finari, encore une fois, j'en doute, mais bon, je me permets de le rappeler, il y a une application web, mais il y a aussi des applications mobiles. Aujourd'hui, on a une très forte traction sur mobile. Elle est disponible sur iOS. Sur Android, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur vos écrans et vous pourrez la télécharger gratuitement. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Le Finari Talk, il sera disponible sur YouTube, mais il sera aussi disponible en podcast sur toutes les grandes plateformes de podcast. Je ne sais pas si Yves, tu es fan de ce format.
Moi aussi, j'ai tout assez sur les podcasts.
Peut-être que demain, tu te réécouteras en Finari Talk, du coup.
C'est plutôt ta partie que je vais réécouter.
Okay.
Parce que franchement, tu mets la barre assez haut.
Bah, écoute,
ce,
merci.
Ce que tu viens de dire est passionnant. Et la promesse, en fait, c'est de mettre à la portée de tout le monde ce que les plus grandes institutionnelles n'ont pas toujours.
Écoute, ça me fait plaisir de l'entendre de ta
franchement,
part.
Franchement, bravo, chapeau.
Merci. Donc, retrouvez cette belle phrase d'Yves demain en podcast. Et surtout, si vous n'avez pas encore écouté nos podcasts, allez le faire, mettez-nous un petit commentaire, abonnez-vous à notre chaîne podcast et évidemment à YouTube. La communauté, vous avez déjà posé beaucoup de questions à Yves sur notre communauté. La communauté, c'est vraiment de là que partent la plupart de nos initiatives. Finari, on ne le crée pas dans notre bureau, enfermé comme ça, en pensant, en faisant des schémas sur des tableaux blancs. On parle avec vous tout le temps, toute la journée. On a beaucoup de débats. Et donc, il y a plein de sujets qui ont été passionnants ce mois-ci. On a parlé de plein de choses. On a parlé de la finance verte. Je pense que c'est un sujet qui est important pour toi, Yves, aussi. On a parlé des bourses qui dévissent. Ça fait peur, forcément, quand on est habitué. On a été dopé, je pense, à des marchés aussi un peu perpétuels. C'est en train de se corriger. Donc forcément, dans la communauté, beaucoup de gens s'interrogent. Bref, c'est un forum génial. Ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu, Yves, c'est que beaucoup de gens aiment parler, enfin font plus confiance en fait à des internautes qui ne connaissent pas plutôt qu'à des gens dont c'est le métier parce qu'en fait, ils savent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc c'est ça, la communauté, en fait. C'est d'une part, la co-création de Finari, d'autre part, juste des échanges de connaissances. Donc, c'est top, allez faire un tour dessus. Et enfin, et c'est la première fois qu'on le fait, Finari, je vous ai dit, c'est un modèle d'abonnement. On ne vend pas vos données, on ne les partage pas. On est une société qui veut avoir un revenu stable et surtout, on veut aligner nos intérêts avec les vôtres. Si vous aimez Finari, vous vous abonnez. Nous, on gagne de l'argent, donc on réinvestit dans le produit. Bref, vous voyez un peu le cycle qui se met en place. Donc, on vous donne un code promo pour profiter de ça. Qui vous donnera 20% sur nos abonnements. Donc, c'est le code FinariTalk12 qui est utilisable sur notre version web. Voilà, Yves le note. Évidemment, il n'y a pas de petit profit. Donc, FinariTalk12, vous profitez de 20% sur notre abonnement Finari Plus. Vous en profitez et tout sera très beau dans la finance. Assez parlé de Finari. On va passer au cœur du sujet. On va passer... Bah, toi, Yves. Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la finance et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas fêter ta 30e année dans ce secteur magnifique qui est la gestion d'actifs?
Donc, je suis un mathématicien de formation. J'ai fait toute ma carrière, effectivement, dans l'asset management. J'ai commencé il y a 30 ans en stagiaire à Crédit Lyonnais Asset Management. Puis j'ai un peu évolué, j'ai fini par être le directeur général de cette belle boîte que j'ai quittée au début de la fusion entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. Et là, je suis retourné à la recherche, aux maths, et je me suis passionné pour une question qui est que dans notre industrie, tout le monde parle de diversification, mais que très bizarrement, la diversification, ce n'est pas quelque chose qui est bien défini. Hein, dans notre industrie, on mesure tout. On mesure la duration, la volatilité, la tracking error, l'alpha, le bêta, le gamma, le theta, le vega, le... Mais il n'y a pas de mesure de la diversification. Et je me suis dit, si ce truc qu'on appelle la diversification, c'est si utile, ce serait quand même bien de pouvoir le mesurer. Et après pas mal de recherches, ben, je crois que j'ai découvert la mesure de la diversification hein, que j'ai brevetée au Canada, aux USA, au Japon, en Australie, qui maintenant fait partie du cursus universitaire pour ceux qui veulent faire de la finance un peu avancée. Et c'est au cours de cette mesure de la diversification que j'ai créé Tobam en 2005. Hein, pourquoi diversifier ? En fait, il n'y a qu'une seule bonne raison de diversifier, c'est qu'on peut voir. Hein, si tu n'as pas la chance d'avoir une boule de cristal, tu as intérêt à diversifier. Hein, y a deux manières de construire un portefeuille. La première manière, c'est de savoir si tu es cher et si tu n'es pas cher. L'autre manière, c'est de diversifier. Hein quand tu sais ce qui est cher et ce qui n'est pas cher, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas implémenter des paris. Et tu vas faire ce qui littéralement est de la spéculation. La spéculation, il n'y a pas des choses qui sont bien et qui sont mal. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est objectif. La spéculation, le terme spéculer vient du latin speculare. Speculare en latin, ça veut dire voir. C'est pour ça que spéculateur et spectateur ont la même racine latine. Donc un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir et qui va implémenter un portefeuille qui va essayer de tirer avantage de sa vision de l'avenir. Il va en fait implémenter des paris dans son portefeuille. Okay ? L'autre manière de gérer, bah, c'est celle de Tobam, qui consiste à ne faire qu'une seule chose, le portefeuille sans paris. Le portefeuille qui exhibe la même exposition à tout. C'est ça Tobam, c'est ça le projet de Tobam. Donc on fait ça aujourd'hui, 15 ans plus tard, à une échelle qui est un peu supérieure à celle à laquelle on a commencé, évidemment. Hein. Aujourd'hui, on gère pas tout à fait 10 milliards de dollars. Hein. Avec la baisse des marchés, ben, on est un peu moins de 10 milliards de dollars.
Ça fluctue.
Voilà. 60% de nos clients sont des entités publiques, donc des fonds souverains, des fonds de pension publics, des banques centrales.
Qui sont basés
à travers le monde. 60% de nos clients sont en Amérique du Nord, 17% sont en Suisse, 12% en Scandinavie, 5% sont en France.
Hein. OK.
On est 45 et on a des équipes, les équipes principales sont en France, en Dublin et à New York. Un peu ce que j'ai fait et ce que c'est que Tobam, je crois que j'ai répondu à ta question.
Ouais, complètement. Et voilà. Du coup, Tobam, vous avez fait un pari intéressant en 2017, qui a commencé à germer en 2013, mais en 2017, vous avez lancé le premier fonds Bitcoin au monde, en France. Mmh. Donc en fait, la France, c'est la terre de la crypto.
Bah, la France, effectivement, vu comme ça, c'est une terre où il y a eu énormément d'innovations dans la crypto. Hein, c'est extraordinaire combien les Français ont, de manière générale, on sait que c'est des bons techniciens, hein, des bons ingénieurs.
C'est clair.
Hein, et on est une terre d'innovation. Le grand problème de la France, hein, c'est faire grossir hein, ces innovations, c'est transformer ces innovations en business. Hein. C'est des fois le problème. Mais effectivement, la France peut s'honorer d'avoir compris très tôt hein, qu'il y avait quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf pouvait marcher. D'accord ? Donc, pour revenir un peu à notre parcours dans la crypto, c'est effectivement en 2013 qu'on a commencé à regarder ça. C'était des individus, hein, Tobam qui a regardé ça, c'est pas la boîte Tobam qui a regardé ça. Et quand je me suis aperçu que ces individus, ils n'étaient pas tout seuls, hein, que j'étais pas tout seul à...
Toi, t'en faisais partie,
ben,
du coup.
À en faire, ben, j'ai organisé un dîner mensuel, hein, où on essayait de partager nos expériences respectives. À l'époque, hein, le Bitcoin, c'était un gadget, hein.
Ouais.
C'était rien du tout, hein. C'est la capi boursière du Bitcoin, je me rappelle d'un cours de 164.
Ouais.
Hein, le premier cours, 164, il y en a 21 millions, ça fait une
ouais, ça fait pas
capi grand-chose. Boursière hein, de 3 milliards, hein. Donc,
il y avait une supply largement inférieure, en fait.
Voilà, mais
global,
potentiel.
Ouais,
hein, potentiel
ouais, dilué. Hein, ouais.
Tout à fait. Et donc, on commence à échanger là-dessus. Et lors d'un de ces dîners, en 2016, Je dis à mes camarades, il y a quand même un paramètre du Bitcoin qui s'améliore pratiquement sans volatilité. C'est sa liquidité. Et entre 2013 et 2016, ça dépend comment tu mesures la liquidité, mais d'une certaine manière, la liquidité était multipliée par 1000. Ça veut dire, pas 1000%, hein, 100 000%.
Et comment tu peux donner, c'est quoi la définition de la liquidité?
Alors, la définition rigoureuse de la liquidité, c'est combien tu fais bouger un cours quand tu achètes $1 million, pour faire court.
Ok.
Si tu achètes aujourd'hui $1 million de LVMH, LVMH s'en fout.
Il ne se passe rien.
Il ne se passe rien. Si tu achètes $1 million d'une action qui est beaucoup plus petite, là, tu vas faire bouger le cours.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le market impact.
Ouais.
Combien tu vas impacter le marché en injectant un ordre d'un... Et ça, il y a des moyens de les estimer de manière extrêmement rigoureuse. Et sur le Bitcoin, entre 2013 et 2016, sa liquidité avait augmenté de 100 000%.
Ok.
Et j'ai dit, si ça continue comme ça, il va venir un jour où même les clients de Cobham, qui sont des mastodontes, vont pouvoir commencer à s'intéresser à ça. Et c'est là que j'ai dit, on va devenir professionnel. Et donc, comment on devient professionnel chez Cobham? Comment on s'intéresse à quelque chose? On fait de la recherche. Donc, on a formé une équipe de chercheurs dédiée à ça. Et la première mission que j'ai donnée à ces chercheurs, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Une thèse d'investissement, c'est la première démarche d'un investisseur professionnel. C'est... Trouvons une raison pour laquelle un investisseur rationnel pourra acheter cet actif.
Mais c'est-à-dire que vous autorisiez le fait de ne pas trouver de raison aussi?
Non, s'il n'y a pas de thèse d'investissement, on n'achète pas. Avant, on était perso.
Vous aviez déjà une conviction à ce moment-là ou c'était...
On avait une conviction intuitive, mais on ne l'avait pas organisée sous la forme d'une thèse. La thèse d'investissement Cobham sur le Bitcoin, c'est un document de 90 pages.
Qui est public?
Qui n'est pas public. Mais pour toi, je n'ai pas de secret, je te montrerai un jour. Et qui répond à la question pourquoi un investisseur rationnel pourrait s'intéresser pour avoir du Bitcoin. Donc, on a écrit ça. Au bout de quelques mois, on a produit 90 pages. On a été présenté ça au régulateur, à l'AMF.
Ouais.
Et au vu de ça et au vu un peu de ce qu'on proposait, l'AMF nous a autorisé à lancer le premier fonds ouvert au monde investi en Bitcoin. C'était en novembre 2017, si je me souviens bien. Et le deuxième fonds qui a été lancé, ça a été lancé par une boîte canadienne en 2021. Donc, on avait quand même un peu d'avance.
Vous aviez beaucoup d'avance.
Voilà. C'est un peu comme ça qu'on s'est intéressé. Pourquoi on s'y est intéressé? Parce que tout simplement, il y avait plein de matheux et qu'il y avait un nouvel objet mathématique qui était un peu biscornu qui est apparu. Et ça a piqué notre curiosité, puis on s'y est intéressé. Jusqu'au jour où vraiment, en s'y intéressant, on arrivait à fabriquer une thèse. En 2013, il n'y avait pas de thèse d'investissement. C'était un truc un peu...
Même, il y avait des exchanges déjà.
Enfin... Il y avait des exchanges, si... Je me rappelle, c'était un peu concomitant, je crois, avec les problèmes qu'a eu Mount Gox.
C'est 2014, je crois. Enfin, c'est très proche. Et du coup, dans le Bitcoin, il y a un paramètre qui est important et ça nous amène à l'inflation. C'est la supply qui est définie et du coup, c'est déflationniste comme actif. L'inflation, c'est la thématique du moment. Là, je lisais un article tout à l'heure d'un rapport de l'INSEE qui a été publié hier et qui parle de l'augmentation des prix des biens de consommation. Donc, sur cette année, on devrait avoir une baisse du pouvoir d'achat de 5% en France. On a une inflation sur 12 mois, en juillet, ou en août, je ne sais plus, de 5,8%. On a une inflation en Europe à 9%, aux États-Unis à 9%. Bon, déjà, c'est quoi, en fait, l'inflation? Comment tu le définis?
Moi, j'ai été formé dans une école qui dépend de l'INSEE.
Ouais.
Les problèmes de statistiques du type inflation, je les connais bien. Initialement, effectivement, l'inflation, elle consistait à essayer d'estimer ce que tu disais, savoir une variation du pouvoir d'achat.
Ouais.
À la fin, il y a eu un historique, puis maintenant, ce sont les biens à consommation. Ça représente assez mal le pouvoir d'achat, parce que c'est quoi le premier poste budgétaire du français moyen, d'après toi?
Le loyer?
Non. Le premier poste de dépense du français moyen, c'est la dépense publique.
Ok, ah oui.
C'est-à-dire l'impôt. Plus...
C'est en direct. C'est direct quand même.
Ça
fait mal.
Et il y a un autre phénomène, il n'y a pas seulement l'impôt, il y a l'impôt et il y a l'impôt différé, à savoir la dette.
Bien sûr, oui.
L'impôt différé, il est très important. Quand tu achètes une voiture à 20 000 euros puis tu n'en payes que 5 000 cash, le prix de la voiture, c'est quand même 20 000 euros.
Ouais.
Donc, si tu veux, ce qu'on acquitte, le coût de la dépense publique, la contrepartie de la dépense publique, il y a 2 ans, je crois que la dépense publique, c'était 62% du... Donc, tu vois un peu que c'est énorme. En 1958, c'était de l'ordre de 30%. On est passé de 30 à 62. Et néanmoins, ce n'est pas pris en compte dans l'inflation. Donc, tu vois, l'inflation, c'est quelque chose qui est...
Pourquoi c'est pas pris en compte?
Parce que l'inflation est un outil de mesure imparfait. Okay. Hein, et que il y a aussi une volonté publique de mesurer certaines choses plutôt que d'autres. Hein. Donc effectivement, le deuxième poste budgétaire du français, c'est effectivement sa capacité à se loger. Hein,
ouais.
C'est le coût du logement. Et là aussi, l'inflation le reflète assez mal. Donc maintenant, si on prend le petit panier qui reste, qui est les biens de consommation,
ouais.
Il y a un phénomène très très important qui s'est passé au courant des 30 dernières années, c'est que ces biens de consommation, on a délocalisé leur production dans des pays où le coût de la main-d'œuvre était très inférieur.
Mmh.
Et ces gains de productivité qu'on a fait en délocalisant la fabrication de ce micro ou de cette chemise, je ne sais rien, dans des pays où le coût de production était moins cher, ces gains de production ont permis de, quelque part, masquer ou de rattraper un élan inflationniste qui existait déjà bien avant ce qu'on a aujourd'hui. Okay. Donc l'inflation, c'est ça, hein, c'est sur un bien de consommation assez restreint, regardez un peu combien les prix évoluent. L'inflation, c'est en fait une réduction de la vraie valeur de l'argent. Alors l'inflation, elle peut avoir deux moteurs, deux origines. La première origine, c'est que s'il y a de plus en plus d'argent pour une quantité de biens ou de travail constante, évidemment, le pouvoir d'achat de cet argent se réduit.
Mmh.
Hein, dans le temps, les États avaient la main directement sur la masse monétaire et quand ils avaient besoin d'argent, ils faisaient tourner la planche à billets de manière directe.
Ils le font toujours, non?
Non, c'est un tout petit peu plus direct. Hein, dans les pays un peu avancés économiquement, on proclame une certaine indépendance. Les instruments centrales sont censés être indépendants de l'État pour ne justement pas faire tourner la planche à billets trop vite. Quoi. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. La deuxième cause de l'inflation sont des causes conjoncturelles.
Mmh.
Hein, de temps en temps, je prends un exemple idiot, si brusquement il y avait une sécheresse calamiteuse, le prix du blé pourrait monter. Hein, et donc,
ou une guerre.
Ou s'il y avait une guerre, ou s'il y avait des problèmes dans les chaînes logistiques, etc. Donc aujourd'hui, il y a un peu les deux causes qui se combinent, qui sont rentrées en résonance en quelque sorte. Hein. Et effectivement, on atteint des pics d'inflation, enfin des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas atteints depuis extrêmement longtemps. Hein. Et comme l'a avoué Madame Lagarde cet après-midi, ça a été, au moins de ce qu'elle dit, une surprise par l'ampleur. Ça a surpris les banques centrales, effectivement, par la vitesse à laquelle l'inflation a grimpé, mais c'est sans doute dû à la combinaison de deux phénomènes. Un phénomène de fond, qui est que les États le proclamaient, il nous faut de l'inflation, on ne va pas le dire, on disait partout, il faut de l'inflation, on ne va pas s'en sortir. À une cause plus conjoncturelle, la première, c'est vraiment quelque chose de long terme, la première cause est plutôt conjoncturelle de court terme.
Et du coup, pour un investisseur particulier aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Et toi, de ton point de vue de professionnel, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour s'en prémunir?
Alors, si tu as une perte de pouvoir d'achat de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir l'argent.
Okay.
Il faut faire quoi donc? Il faut acheter des biens réels.
Tout à fait.
Les biens réels, ils sont de plusieurs catégories. C'est un bien réel, c'est tous les biens en fait, qui n'ont pas pour contrepartie directement de l'argent. Les titres obligataires, ce n'est pas des biens réels, c'est des biens financiers. Quand tu achètes une action, la plupart des actions sont les biens réels. Quand tu achètes une usine, elle existe vraiment, elle fait des profits, elle permet au travail de s'exprimer. Donc les actions, c'est des biens réels, les appartements, c'est des biens réels, la crypto, d'une certaine manière, c'est un bien réel, parce que c'est quelque chose qui est en quantité a priori limitée pour certaines cryptos.
L'or, du coup,
l'or,
aussi.
L'art. Alors, tu me diras, mais alors l'inflation explose et tous ces biens-là se cassent la figure. Donc, peut-être qu'en fait, ce qui fait que tout ça se casse la figure, ça n'a rien à voir avec l'inflation. En fait, ce qui fait que les marchés ont beaucoup baissé, que les actifs risqués ont beaucoup baissé, ce n'est pas dû à l'inflation, c'est dû à la réaction des banques centrales.
Okay. Qui ont fermé un robinet.
Qui ont effectivement, une manière de le dire, c'est de fermer un robinet, une autre manière de le dire, qui ont haussé les taux. Qui ont commencé à hausser les taux de manière assez significative et surtout, qui ont affiché une détermination à hausser les taux dans l'avenir. Les taux, le taux court terme, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Quand le taux sans risque monte, bah, ça crée quelque part un effet d'éviction, hein, un arbitrage, une tentation d'arbitrer l'actif risqué. Si maintenant je peux quelque part toucher un taux supérieur sans prendre de risque, bah, je vais peut-être avoir la tentation d'abaisser un tout petit peu mon allocation sur les actifs risqués et d'augmenter mon allocation sur l'actif sans risque. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le de-risking, qui fait que tous les actifs risqués, à une ou deux exceptions près, qui sont conjoncturels, par exemple le prix du pétrole, mais là c'est un autre phénomène, hein, c'est ce qui se passe en Ukraine, qui peut expliquer ces choses-là.
Donc en gros, il faut fuir le cash, donc les livrets.
Fuir le cash pour l'inflation.
Pour l'inflation.
Par contre, la banque centrale, elle te dit achète du cash.
Bien
sûr. Quand elles ajustent très fort, eh ben il y a la tentation d'acheter du cash. Alors maintenant sur le ce qu'il faut faire n'est pas guidé par ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est par ce qui va se passer dans l'avenir. C'est quoi les scénarios,
hein? C'est le moment où il faut prendre des notes. Là.
C'est quoi le scénario? C'est quoi mon scénario, hein? En fait, je pense qu'en fait, le grand déséquilibre, hein, de la fin du 20e et du début du 21e siècle, hein, c'est que les dépenses publiques sont énormes. Et il en a résulté des déficits publics et même des montagnes de dettes très importantes. Ce déséquilibre, il y a trois manières de vivre avec. La première manière, c'est d'essayer de le réduire, soit en réduisant massivement la dépense publique, mais ça, c'est assez improbable.
C'est impopulaire aussi.
C'est impopulaire, mais c'est même improbable. Hein. Je veux dire, au-delà de la popularité, c'est assez improbable. Hein. Joe Biden a été élu sur un programme où ils allaient massivement investir dans l'infrastructure. Étant donné la conjoncture politique et géopolitique en Europe, je ne crois pas qu'ils vont réduire tout de suite les dépenses publiques. Donc ça, c'est assez improbable. Mais c'est incertain. Hein. Si on parle de l'avenir, il y a toujours une incertitude sur l'avenir. La deuxième possibilité, bah, si on n'arrive pas à diminuer les dépenses, bah, on va augmenter les recettes. Donc on va massivement augmenter les impôts.
Aïe.
Deuxième scénario. Bah là aussi, c'est assez improbable, parce qu'en fait, le taux d'imposition, particulièrement en Europe et particulièrement en France, on a le taux d'imposition le plus élevé du monde. Et si on a envie de casser la croissance et de casser l'économie, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc là aussi, c'est assez improbable. C'est quoi la troisième solution? La troisième solution, c'est finalement de s'en sortir par de l'inflation. Donc moi, je suis persuadé que l'inflation de long terme, elle est là pour durer. Hein, l'inflation non conjoncturelle. L'inflation conjoncturelle, elle va trouver ses solutions. Hein, les circuits logistiques vont se redéfinir. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, un jour ou l'autre, il y aura plus d'offres. Hein, on va remettre en place des usines, remettre en place des centrales qui vont permettre de pourvoir à la rareté des biens. Mais la tendance de long terme qui consistait à faire tourner la planche à billets, je suis assez confiant sur le fait que ça va rester. Alors, on ne va pas rester avec un niveau d'inflation à 9, hein, mais je crois que les niveaux d'inflation à 0, tels qu'on les a connus il y a quelques années, ou même le target d'inflation à 2%, je crois qu'il est caduque, hein, et qu'il va falloir apprendre à vivre avec un monde où l'inflation sera sans doute aux alentours de 4 ou 5, avec de la volatilité, évidemment. Hein, mais c'est ça, le nouveau monde qui va s'installer.
Ça fait peur, du coup, c'est un monde qui fait peur parce que est-ce que tu penses que du coup les salaires vont s'ajuster par exemple
Ça fait peur à qui? Ah, ça fait pas peur aux personnes qui sont endettées.
Bien sûr, ah bah oui.
Ah voilà, ça fait pas peur à l'État.
Donc ça c'est intéressant, est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi c'est.
Parce que si tu empruntes quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui puis que tu rembourses avec de la monnaie de singe, c'est quand même un bon coup de ta fait.
Donc là, l'État, en fait, est en train de... Et en
plus, l'État est... effectivement, il n'a pas forcément intérêt à ce que... tu vois, les grandes erreurs qui ont été faites dans le passé, c'est ceux qui empruntaient en francs suisses quand le franc suisse montait.
Ouais.
Voilà. Inversement, si tu empruntes en livre libanaise, bah, tu as fait un beau coup, hein, parce que tu as emprunté, tu as pu acheter des biens, et puis vu que la livre libanaise ne vaut plus rien, bah, tu rembourses avec
pas la monnaie de singe.
Donc, sans aller juste à cet excès-là, hein, l'inflation est l'ami de la personne endettée, elle est l'ennemi du rentier, de celui qui a des obligations. D'accord ? En l'occurrence, en Europe, ce n'est pas forcément un problème énorme, parce que celui qui a des obligations, c'est qui ? C'est la banque centrale. C'est la banque centrale. Hein, l'acheteur, le grand acheteur d'obligations ces dernières années, obligations d'État, hein, ça a été la banque centrale.
C'est Mario Draghi.
Voilà. Et lui, bon, ben, s'il fait des pertes, hein, il va savoir gérer ça parce que
c'est son métier.
Pas très important.
Ok. Donc, voilà. Et du coup, avant de passer aux questions, l'investisseur particulier, ou toi, c'est quoi ta recommandation aujourd'hui? Comment tu positionnes un patrimoine?
Moi, sur le long terme, je m'intéresse pas au court terme. Mais j'ai pas
C'est quoi le long terme pour toi? C'est combien d'années?
C'est sur les marchés risqués, c'est au moins une dizaine d'années.
Okay. Hein.
Ce qui a de la valeur, hein, c'est le travail de l'homme ou de la femme, hein, c'est le travail. Et ce qui permet au travail de se réaliser, c'est les actions. Donc, il faut acheter des actions sur le long terme.
Okay.
Sur le long terme, ça devrait être bien. Et il faut acheter des biens réels. Et il faut, dans la mesure du possible, être endetté, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. D'accord ?
Même maintenant encore, tu penses
Oui, je pense que s'endetter tranquillement, je ne suis pas en train de faire de la spéculation, mais je dis que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, hein, que si l'inflation est là pour durer, ben, le profil patrimonial du Français moyen qui a consisté pendant des années à emprunter pour acheter sa résidence principale, ben, c'est pas forcément quelque chose qui a complètement été idiot. Et je ne pense pas qu'à moins qu'il y ait des déséquilibres démographiques imprévisibles qui arrivent, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée pour le passé. Après, il faut acheter des choses qui sont rares.
Hein, Bitcoin
éventuellement, ou des choses qui sont rares en général.
Ok, génial. On va passer aux questions, Yves. Première question. Donc, les questions, elles viennent d'où? Elles viennent pas, on ne les a pas inventées. Elles ont été posées sur la communauté. On a simplement pris les questions qui avaient reçu le plus de votes. Première question de Fabrice, que je salue. Quel est ton avis sur l'approche d'investir dans des ETF pour un investisseur particulier? Est-ce qu'il faut plutôt faire ça ou avoir une approche active et acheter des actions, essayer de faire du stock picking?
Alors, à dessein, parce que je pensais bien que ça arriverait pendant la question, je n'ai pas utilisé mon mot préféré dans ma réponse. C'est quoi mon mot préféré?
C'est diversification, j'imagine.
Voilà, voilà. Donc, mon mot préféré, c'est diversification. J'ai vu effectivement la question de Fabrice. Un ETF, c'est quoi? C'est un exchange traded fund. Ça veut dire que c'est un fonds qui cote en intraday.
Ouais. Hein?
Donc, le fait qu'il cote en intraday, c'est un intérêt limité. Parce que, de toute façon, quand on investit, ce n'est pas pour couper sa position à 4 heures plutôt qu'à 15 heures. On peut atteindre la fin de la journée, puis on paiera beaucoup moins cher si on regarde tous les coûts. Le vrai dilemme, c'est gestion active, gestion passive. Hein, la gestion passive, elle consiste à répliquer le benchmark. Mmh. Et le benchmark, l'indice capi pondéré, en fait, il consiste à acheter les actions à proportion de leur capitalisation boursière.
Exactement.
Et donc, mécaniquement, tous les risques que tu vas prendre, tu vas maximiser tes risques au pire moment. Parce que plus une action va monter, plus tu vas en mettre. Plus elle va monter, tu vas en mettre. Plus elle va monter, tu vas en mettre. Puis finalement, tu en mettras le maximum quand elle sera au plus haut.
Ouais.
Inversement, plus une action va baisser, moins tu vas en mettre, et c'est quand l'action ne sera pas chère que tu en auras le moins. Hein, donc, on s'est aperçu aux alentours de 2005, dans le marché, que ce n'était peut-être pas une manière très intelligente d'investir. Hein, c'est pour ça qu'il y a un nouveau style de gestion qui est apparu, qui s'appelle le Smart Beta.
Hein, qu'est-ce que vous faites, en fait?
Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas les seuls, hein,
ouais.
Mais effectivement, c'est essayer de construire des portefeuilles un tout petit peu plus intelligents que celui qui consiste à avoir le plus de France Télécom le jour du plus haut, le plus de BNP le jour du plus haut, le plus de Sanofi le jour du plus haut, le plus de LVMH le jour du plus haut. Et ça, c'est la diversification. Hein. Donc, la gestion passive, ce n'est pas forcément mon dada. La fin de la question de Fabrice, c'était sur le MSCI World. Alors là, le MSCI World, oui, il faut se diversifier. Hein. Et la diversification géographique, c'est évidemment hein, une diversification qui est extrêmement précieuse, hein, surtout par les temps du tour.
Hein. Et donc, on est exposé aux devises aussi différentes.
Enfin, voilà,
c'est intéressant.
À des économies différentes qui ne sont pas synchrones.
Hein, tout à fait, ouais. Prochaine question de Sébastien, un peu provocatrice. Hein. Est-ce que choisir l'hyperdiversification, c'est finalement ne pas choisir du tout?
Absolument, et choisir l'hyperdiversification, c'est ne pas choisir, parce qu'on n'a pas d'informations fiables sur l'avenir. C'est pas ne rien faire. C'est essayer de tout avoir à la fois en étant long-grandi. Hein? J'ai fait il y a quelque temps une conférence à Singapour et l'audience était rentrée vraiment presque en résonance avec ce que je disais, ils adoraient. Puis j'ai eu l'idée de conclure ma présentation en leur disant bah, « Après tout, la diversification, c'est une leçon de la vie. Hein ?» Et j'aurais dit « On va faire une petite expérience de physique amusante hein, qui va vous démontrer ma proposition. » Il me faut une victime, j'ai dit. Donc j'ai pris quelqu'un à la salle. Et je lui dis, bah, vous allez monter sur scène et je vais faire une expérience de physique amusante sur vous qui va vous prouver que la diversification, c'est une leçon de la vie. Et je l'ai pris, puis je lui dis, bah, voilà, je vous prends et je vous mets dans ma machine à voyager dans le temps. Et je lui ai dit, bon, bah, on va rester à Singapour, mais on va aller il y a 100 millions d'années. Et maintenant qu'on est encore à Singapour, mais à 100 millions d'années, bah, je vais vous poser une question. Et vous allez avoir deux manières de me répondre. Soit vous allez tricher, soit vous n'allez pas tricher. Alors, écoutez bien ma question. Ma question, c'est quel est. The actual living creature, quel est l'organisme vivant qui va effectivement survivre, qui est le fittest, qui est le plus adapté à survivre. Alors, si vous trichez, pas, vous allez me dire, bah, c'est sans doute le T-Rex, le Tyrannosaurus Rex, hein, parce que c'est un super prédateur, donc il va survivre. Si vous trichez, vous allez me dire, non, c'est pas le T-Rex. Celui-là, hein, parce que je te parlais d'un organisme vivant individuel, c'est pas ce T-Rex-là qui va survivre, hein, parce que comme vous trichez, vous savez que c'est les mammifères qui vont dominer la planète. Exactement. Et vous allez me dire, c'est ce petit rat qui se cache derrière le rocher, le Crusafantia, parce que le Crusafantia était à l'époque le seul mammifère, c'est l'ancêtre de tous les mammifères. Maintenant, si vous y réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte que les deux réponses sont fausses. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas bien écouté ma question. Ma question, c'est quel organisme vivant va effectivement survivre. Le T-Rex lui-même, il n'a pas survécu plus de 30 ans, et le Crusafantia lui-même, celui-là, là, il n'a pas survécu plus de 3 mois. Quel est le seul organisme vivant hein, que vous auriez pu voir à Singapour ou à Paris il y a 100 millions d'années qui est encore vivant aujourd'hui? Il n'y en a qu'un. C'est quoi?
Microbe.
Non, lui-même, le petit organisme lui-même, il est mort. Il n'existe plus, celui-là. Le seul organisme vivant qui était vivant il y a 100 millions d'années qui est encore aujourd'hui, c'est la vie elle-même. C'est quoi la stratégie de la vie? C'est la diversification. Il y a des gens qui croient faussement que la stratégie de la vie, c'est de s'adapter. La vie, elle ne s'adapte pas. La vie, elle répartit simplement les paris. Elle se diversifie. Et ce sont les circonstances qui sélectionnent. Hein? Et c'est la même. Et dès qu'il y a un des organismes vivants qui a un caractère qui lui donne un avantage, ben, il va se diversifier lui-même. Le Crusafantia, c'était le seul mammifère. Le fait d'être un mammifère, c'est devenu un avantage. Et maintenant, la diversité des mammifères est incroyable. Tu as des baleines, tu as toujours des rats, hein, tu as des êtres humains, de moins en moins de singes, malheureusement. Hein. La diversité, c'est le moteur de la survie de la vie. Okay. Donc, en quelque sorte, je suis le seul gérant d'actifs qui a 4 milliards d'années de track record. Hein, donc, si vous voulez, il faut être investi, être long en vie. Et ma préconisation, notre méthode à nous, c'est effectivement de se dire bah, si on n'a pas de boule de cristal, et malheureusement tu es en face de toi le seul gérant d'actifs au monde qui n'a pas de boule de cristal, bah, il faut être diversifié.
Donc c'est radical.
Ben voilà.
C'est radical. Question de Julien, et après on passera aux questions que vous avez posées vous. Comment investir en fonction de ces hypothèses géopolitiques? Donc a priori, Julien a des sur la Chine, il pense que la Chine va croître plus vite que l'Europe ou la Russie par exemple. Encore une fois, pour un investisseur particulier.
Alors je ne vais pas commenter tout de suite sur la Chine et la Russie, on va prendre plutôt la question fondamentale et conceptuelle de Julien. Julien, il me dit la diversification c'est bien, mais moi j'ai des convictions géopolitiques, comment je peux faire? En fait, la gestion institutionnelle a inventé un cadre pour ça, et le cadre c'est ce qu'on appelle la gestion core satellite.
Ouais. Hein.
Donc qui dit qu'en fait, tu peux diviser ton portefeuille en sous-ensembles, un gros ensemble qui va être bien diversifié et qui va te permettre de t'exposer au travail des hommes, donc aux actions. Les actions, c'est le travail, hein. C'est comme l'argent. C'est quoi la seule fonction? La fonction primordiale de l'argent, c'est de stocker du travail. Hein, tu viens au boulot tous les jours, tu touches ton salaire. Hein, en contrepartie de ton travail, et en espérant que ton salaire puisse te permettre d'acheter le travail d'un autre demain. Donc, ce qui a de la valeur vraiment, c'est le travail. Et l'argent permet de stocker ton travail pour t'en servir plus tard. D'accord? Ou le contrepartie de ton travail pour t'acheter le travail des autres plus tard. Et le travail dans le marché financier, c'est les marchés des actions. Qu'est-ce qui fait que les marchés montent? C'est tout simplement qu'il y a des ingénieurs chez Peugeot, il y a des génies chez LVMH qui font des dessins sublimes, il y a, je ne sais pas trop quoi, des chimistes ailleurs, où il y a des travailleurs, des ouvriers qui travaillent et qui créent de la valeur. Mmh. Et cette valeur-là, ils en touchent une partie. Et après, l'organisme qui a permis à tout ça d'exister, l'action, elle en touche une autre partie. D'accord ? Donc, ça, c'est core. Ensuite, s'il a des paris à mettre en place, il va acheter des expositions satellites.
Donc, à la marge ?
Normalement, à la marge, parce que tu vois, le seul gérant d'actifs qui a toujours... Il y a eu un gérant d'actifs qui a toujours eu raison. Hein. Il a fini en prison. Hein. Voilà. Donc, ceux-là, il faut s'en méfier. L'art de la prévision est un art impossible.
C'est un art.
Voilà, c'est pas un art. Donc, y a pas.
Ça n'existe pas.
Voilà, ça n'existe pas. Ou bien alors, faut le faire sur des niches, hein, oui. sur des marchés très inefficients.
Mais qui peuvent le devenir.
À terme, qui le deviendront.
Parce que trop de liquidité.
Probablement, voilà. Mais très inefficient, l'accès à l'information de manière un peu spécifique, ça peut te donner effectivement un. Tout, normalement, c'est d'une certaine manière interdit parce que tu n'as pas le droit d'avoir l'information privilégiée.
Oui.
Mais l'accès un peu tôt à l'information publique, elle te permet, chez certains gérants small caps, il y en a en France, qui sont vraiment, qui ont des track records fabuleux.
Odo, notamment.
Je ne sais pas. je ne pense pas spécialement à eux, même si c'est une très belle entreprise, Odo. Mais ça va être sur une niche,
ouais.
Hein, sur un satellite, justement.
Oui.
Hein voilà.
Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient au Finary Talk numéro 1, on avait interviewé un gérant de fortune et lui il disait que les portefeuilles de ses clients, il les construisait selon cette approche-là,
core satellite.
Et dans le satellite, il mettait de l'art aussi, tous les bets.
Un bet, voilà, exactement.
C'était un bet, et c'était de mémoire, c'était 80-20.
Bah voilà.
Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, on va encore prendre une question ici. Ensuite, on passera aux questions du chat. Donc, si vous voyez des questions qui vous intéressent, votez pour. Je vais en prendre une qu'on n'a pas du tout traitée. Alors, on va parler de la crypto un petit peu, vu que c'est quand même quelque chose qui t'intéresse fondamentalement. Alexandre nous dit... Alors déjà, Alexandre a une boule de cristal, a priori. Il nous dit, concernant la crypto, nous sommes bientôt en fin de cycle bear market. Donc, a priori, le marché va bientôt arrêter de baisser. Comment préparer le prochain bull run? Le prochain halving... Ça concerne Bitcoin, est prévu pour début 2024. Quelle est votre approche et stratégie par rapport à cet événement?
Écoute, j'ai l'habitude, chaque fois que je parle du Bitcoin, de prendre une précaution que je n'ai pas prise au début. J'étais troublé par la qualité de ton discours. Et
très plaisir. Pas de disclaimer habituel.
J'ai pas eu le disclaimer habituel. Et le disclaimer habituel, c'est que le Bitcoin, c'est un actif extrêmement risqué.
Tu viens de le rappeler.
Voilà, donc la volatilité du Bitcoin, elle franchit souvent la barre des 100%, très très souvent.
Donc ça veut dire que le prix va doubler?
Non, la volatilité de 100%, pour te donner, la volatilité c'est une mesure de la variabilité du prix, de comment oui. bouge le prix, d'accord? Une volatilité de 100%, pour te donner une échelle de grandeur, l'action Lehman Brothers, la semaine de la faillite, n'a pas franchi la barrière des 100%.
Pourtant, elle est allée.
Elle a été allée à zéro, et puis c'est l'actif le plus risqué du monde.
Bien sûr.
Hein, bien sûr. Et néanmoins, elle est restée en deçà des 100%. Donc le Bitcoin, il franchit souvent cette volatilité de 100%. Il est peut-être 7-8 fois plus risqué que le CAC 40. Hein.
C'est du satellite pour toi, ça?
Je vais y arriver. À moins que tu aies une boule de cristal. Si tu as une boule de cristal, vas-y. Voilà. Bon, okay. Alors, le Bitcoin est très risqué. Mais en fait, le risque, il ne doit jamais te servir à exclure un actif.
Mmh. Hein? Bien sûr.
Si le Bitcoin est 6 fois trop risqué pour toi, tu en achètes 6 fois moins. S'il est 10 fois trop risqué pour toi, tu en achètes 10 fois moins. Acheter 5 000 euros en Bitcoin, c'est beaucoup moins risqué que d'acheter 100 000 euros d'actions françaises.
Ok, c'est intéressant.
Voilà. Donc en fait, il y a une phrase que tu n'as pas le droit de prononcer, c'est « le Bitcoin est trop risqué pour moi ». Par contre, le risque va te permettre de définir la taille de ton investissement. Alors, comment investir en crypto? La préconisation d'Autobahn, nous, on n'a qu'un seul dieu, la diversification.
Bien sûr.
Une des grandes vertus du Bitcoin, c'est qu'il est diversifiant.
Ouais.
Et j'ai fait une intervention une fois à l'Assemblée nationale devant la Commission des finances. Et Eric Woerth m'a posé la question, qui était le rapporteur de la Commission des finances, m'a dit, mais le Bitcoin est très risqué, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, bah ouais, vous avez raison, le Bitcoin est très risqué. Le Bitcoin, c'est comme le chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat. Hein, c'est très, très dangereux. C'est comme le Bitcoin, c'est très, très risqué. Mais si vous mettez 2 gouttes de chlore dans un verre d'eau, bah, vous aurez de l'eau potable. Et bah, le Bitcoin, c'est la même chose. Si vous mettez à peu près 2% de Bitcoin dans un portefeuille 100% actions un peu diversifié, ben vous allez réduire la volatilité de votre portefeuille. Donc moi, ma préconisation concernant, c'est Tobam qui parle là, la préconisation de Tobam, c'est d'utiliser le Bitcoin pour son pouvoir diversifiant.
Okay.
Au moins dans ton portefeuille core. Maintenant, si tu as une strong conviction, si tu es vraiment un opinion...
un maximaliste.
Voilà, ou si tu as une opinion très très forte, ben rien ne t'interdit d'implémenter un satellite, tu vas encore augmenter ton exposition, mais là, c'est parce que tu as la chance de pouvoir prévoir. Si tu as la chance de pouvoir prévoir, vas-y, spécule.
Mais en satellite. Et d'ailleurs, on a parlé du Bitcoin. Est-ce que, Tobam, vous êtes exposé à Ethereum, à d'autres crypto-monnaies?
Oui, bien sûr. Hein. On ne s'est pas limité en termes de recherche à Bitcoin. On a fait beaucoup de recherches. Sur d'autres, pas tous les autres, parce que ça, ce serait...
Oui, c'est infini. Voilà. Il y en a 50 donc, tous les jours.
Voilà, donc sur certains autres, hein, et on a développé des thèses d'investissement hein, sur l'Ether, sur d'autres, sur Cardano, sur Solana, etc. On a des produits. Les produits de Tobam en crypto sont destinés uniquement aux institutionnels. On a un produit ouvert.
Donc nos auditeurs ne pourront pas investir chez toi?
Bah, ça dépend si ce sont des investisseurs qualifiés ou pas.
Donc qualifiés, c'est quoi?
Qualifié, bah, il faut aller sur le site de l'AMF et voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà tu investis plus de 100 000 euros.
Ouais.
Hein, puis ensuite.
Certains niveaux de patrimoine aussi, je crois.
Non, c'est 100 000 euros. Ou un certain niveau de patrimoine. Ouais. Le seul produit très crypto, en quelque sorte, hein, qu'on a et qui est ouvert aux particuliers, c'est un fonds à vocation générale, qui fait qu'au lieu d'acheter de l'or, tu vas acheter des mines d'or, quoi, en fait.
Okay.
Hein, voilà, donc quand tu vas acheter un panier d'actions qui elles-mêmes sont exposées hein, à l'industrie
du mining, du coup,
du mining, des exchanges,
etc., de
la crypto.
Ok,
voilà. Hein, au lieu d'acheter de l'or, des lingots d'or, bah, tu achètes des mines d'or.
Ok, voilà. Ça marche.
Ça, c'est la loi Pacte. Hein. Le gouvernement français a compris hein, qu'il fallait permettre aux particuliers de s'exposer, mais de manière. Risk control, d'un contrôle de risque à cette nouvelle opportunité de placement. Et c'est très important, vous savez, on critique beaucoup les cryptos, etc. C'était très important de comprendre que l'investissement, je parlais d'art, mais c'est un peu pour me moquer tout à l'heure, c'est aussi une science, d'accord? Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas.
Donc, est-ce que ça rapporte?
Et quel service ça rend qui n'existait pas avant.
Ouais.
Voilà. Hein, et c'est une différence un peu fondamentale entre une certaine manière de certains Européens de penser. Hein, on va se passionner pendant des années pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et d'autres, hein, qui sont plus des investisseurs dans l'âme, les Américains, ils vont se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et si ça marche, ben on va essayer d'en tirer un avantage social, hein, pas d'un avantage égoïste, un avantage pour la société. On va essayer de développer des produits qui vont tirer avantage de cette nouvelle technologie pour rendre des services qui n'étaient pas disponibles avant. Et ça, c'est vraiment ces services qu'on ne pouvait pas rendre avant, qui sont les thèses d'investissement, hein, d'abord du Bitcoin, ensuite de l'Ether, ensuite du Cardano, ensuite de Solana, et ensuite
et de nouvelles
d'autres.
Qui ne s'arrête pas. On va prendre les questions du public. Question crypto encore. Tim demande, l'Ethereum va passer du Proof of Work au Proof of Stake la semaine prochaine, apparemment. Je ne sais pas si c'est vraiment si sûr que ça. Avec votre approche investissement responsable et durable, quel impact cet événement aura-t-il sur l'allocation Ethereum de votre fonds multi-crypto? Pour information, un petit peu de contexte, ce changement de protocole, enfin pas de protocole, mais de façon de valider les transactions, va rendre l'Ethereum beaucoup moins nocif pour l'environnement puisqu'il n'y aura
plus énergivore.
Beaucoup moins énergivore. Énergivore, il n'y aura plus de mineurs qui tourneront, mais il y aura un beaucoup proof moins, of stake, ouais, voilà. Ouais. Un nouveau mécanisme.
Alors, c'est Tim hein, qui pose la question. Bon, Tim a raison. Hein. Tobam, c'est une boîte qui s'adresse à des investisseurs de très long terme. Et donc, très tôt dans la vie de Tobam, hein, la première année, la deuxième année de la vie de Tobam, hein, on a commencé à rajouter un overlay de développement durable. Hein. On a été élu cette année, société d'investissement la plus durable du monde. Hein, et c'était la deuxième fois qu'on touche cette récompense. On a eu la même chose en 2019. Tobam, par exemple, calcule tous les ans son empreinte carbone et compense 300% de ses émissions carbone tous les ans.
D'accord. Donc, les émissions de tes collaborateurs ?
De mes collaborateurs et de la boîte.
Et de la boîte.
Mais c'est okay. Vrai, tu as raison. On ne s'est pas arrêté au scope 3, on a été au scope 4. Ça veut dire qu'on compense aussi les émissions de nos collaborateurs. Le fonds Bitcoin de Tobam compense la totalité de ses émissions carbone.
Okay.
D'accord. Alors, proof of work, proof of stake. En fait, c'est une question d'arbitrage.
Comme ça. Hein,
ouais, comme voilà, c'est il faut faire un compromis sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la sécurité. Hein, et le deuxième paramètre, c'est le coût du mining.
Oui.
Voilà. Donc, la sécurité du proof of work, elle est très, très grande. Elle a été testée hein, depuis le 3 janvier 2009. Elle
n'a jamais égalé.
Elle n'a jamais été breachée. Hein, elle n'a jamais eu de capacité à breacher ça, mais elle est très testée. Elle est théoriquement très forte. Le proof of stake, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et dont le track record est plus limité. D'accord ? Donc, il va falloir voir un peu comment tout ça fonctionne. L'énergie, consommer de l'énergie, c'est très bien si c'est en contrepartie de services précieux. Mmh. Hein ? Par exemple, tu veux arrêter d'émettre du carbone, toi ? Arrête de respirer. Ça, c'est quand même un effort qui va coûter cher.
Ça va coûter assez cher.
Voilà, d'accord. Donc,
surtout pas avant la fin du talk.
Voilà, donc il faut voir un peu à quel type d'avantage tu vas renoncer si tu veux arrêter d'émettre. L'autre solution, hein, c'est de compenser. Ça, c'est encore autre chose. Mmh. Hein, et donc, tout ça, c'est un peu le merge, effectivement, dans le scénario le plus optimiste, c'est que ça se passe la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est très imminent.
Oui, on le voit là.
Et après, il va falloir voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, tout ça, c'est très théorique. Hein, donc, il y a des gens qui sont très optimistes, des gens qui y croient moins. Et le rôle de l'Ether et du Bitcoin, hein, c'est des rôles sociaux extrêmement différents. Hein, et dans certains cas, effectivement, arrêter d'émettre en contrepartie d'une sécurité un tout petit peu moins prouvée, c'est possible. Dans d'autres cas, il ne faut pas le faire.
OK.
Voilà.
Ça marche. On va continuer sur les questions. William demande tout simplement, on a déjà un peu abordé, mais on peut peut-être creuser, comment protéger son épargne de l'inflation ? Tu as parlé de faire de la dette pour acheter de l'immobilier, tu as parlé d'investir dans le travail. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont tu le présentes, parce que tu parles. Il faut rappeler quand même qu'une action, c'est
le travail des hommes
c'est le travail qui produit ça. C'est
les êtres humains, on va dire.
Les êtres humains, voilà, exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour se protéger de l'inflation ?
Pour se protéger de l'inflation, hein, l'inflation, c'est tout simplement une baisse de valeur de la monnaie fiduciaire. Il ne faut pas détenir de monnaie fiduciaire.
Mais
si tu n'as pas de monnaie fiduciaire, tu es protégé à exactement 100%. Okay, aujourd'hui, de nouveau, le problème qu'on connaisse les marchés, ce n'est pas la hausse de l'inflation, c'est réaction des banques centrales.
Ouais. Hein,
voilà. Si tu veux te protéger de la réaction des banques centrales, tu dois faire quoi ? Tu dois acheter de la monnaie. Donc, voilà.
Donc, c'est un peu contradictoire.
C'est pas contradictoire, c'est deux scénarios. Hein, qui sont effectivement. Moi, j'ai coutume de dire, pour reprendre un peu le cas du Bitcoin, il y a deux adverses scénarios pour le Bitcoin. Il n'y en a que deux. Okay, le premier adverse scénario, c'est que les banquiers centraux deviennent, parce qu'ils ne l'ont jamais été, durablement orthodoxes. C'est-à-dire qu'ils se rappellent, par exemple, pour le cas de la Banque Centrale Européenne, qu'il n'y a qu'une seule mission de la Banque Centrale, c'est la stabilité des prix. Dès lors qu'une Banque Centrale se donne d'autres missions que la stabilité des prix, par exemple, qu'elle vient en aide aux banques, par exemple, qu'elle vient en aide aux États impécunieux, par exemple, qu'elle va favoriser la transition énergétique, cette deuxième mission, ou ces autres missions, elles vont toujours s'exercer aux dépens de la première mission. Okay, donc, c'est pour ça que les banques centrales, elles disent, on va faire ça, on va faire que ça, puis tout de suite, on a la tentation de leur faire faire autre chose. Alors, ça, c'est le premier adverse scénario du Bitcoin. Okay, et toutes les bien réels ont cet adverse scénario. Si les banques centrales sont orthodoxes, effectivement, il va falloir que les actions payent plus. Et pour qu'elles payent plus, il faut d'abord qu'elles baissent pour qu'elles puissent payer plus. D'accord. L'autre adverse scénario du Bitcoin, c'est différent, c'est qu'on invente mieux que le Bitcoin. Mais Enfin, ça, c'est un autre débat. Tu m'inviteras un jour, puis je te développerai
j'espère,
ça.
J'espère. Je connais. Si vous le connaissez, dites-le nous. S'il y a le prochain Bitcoin, on en parle souvent. peut-être qu'on peut un peu creuser sur l'immobilier. Donc, Mehdi veut savoir, est-ce que l'immobilier reste un bon moyen de passer une crise inflationniste? Et peut-être aussi, quel type d'immobilier? Est-ce que, comment tu te positionnes sur ça?
Bon, alors, effectivement, si la crise est purement inflationniste,
ce qu'elle n'est pas vraiment.
Voilà, l'immobilier est un atout. De nouveau, si les banques centrales se mettent à hausser les taux sans limite, les gens vont avoir du mal à emprunter, donc le cours de l'immobilier va baisser. D'accord? Donc vraiment...
il faut plutôt attendre pour acheter, avoir à des taux plus hauts ou acheter maintenant et loquer les taux
Je dis simplement que je n'ai pas de boule de cristal, donc il faut être diversifié en théorie. Maintenant, si tu veux...
C'est dur de diversifier sur une RP ou quelque chose de...
Il faut diversifier, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir que de l'immobilier.
Ouais, voilà. Okay.
Donc, si tu tiens à avoir de l'immobilier, mon conseil, c'est soit diversifier, de nouveau, à moins que tu aies une forte conviction. Si tu as une opportunité extraordinaire, si tu vois une boutique McDonald's, les murs d'une boutique McDonald's à vendre qui est vraiment pas cher et que tu sais que McDonald's ne va pas partir pendant les 20 prochaines années, là, tu as une opportunité d'arbitrage, tu l'exerces, tu prends ton pari. Okay, et là, tu peux te permettre de déconcentrer. Dans le cas adverse, dans l'autre cas, il faut un tout petit peu être diversifié, se protéger purement de l'inflation en achetant l'immobilier, c'est intelligent. Le risque que tu prends, c'est que les banques centrales aillent beaucoup plus loin qu'elles n'ont été, auquel cas le marché de l'immobilier va souffrir. Et l'autre cas que tu as, c'est le scénario dont je parlais tout à l'heure, si vraiment les États veulent se refinancer par des impôts, l'immobilier, il a quand même un grand défaut, c'est qu'il est difficile à bouger. Ouais. Il est immobile. Donc, ouais, l'État le saisit. C'est quand même la classe d'actifs, une classe d'actifs qui est facile à imposer. L'immobilier papier, c'est probablement une belle solution. Et elle permet la diversification, les fonds immobiliers, ce qu'on appelle... les REITs, Real Estate Investment Trust.
Tu mets les SCPI dans le lot aussi?
Bon, oui, mais les SCPI pour les produits français, effectivement, oui. Mais on peut s'exposer aussi à l'étranger.
Ok. Alors, on a dépassé l'heure. On va encore prendre quelques questions. Yves, si tu as encore 2 minutes, parce que c'est passionnant. César veut savoir.
César. Pardon.
Oui, voilà, il est là. Il est présent.
Oui. Excuse-moi.
Alors, c'est intéressant. Que penser d'un livret A à 2% et des fonds euros qui souvent payent moins que ça? Est-ce qu'il faut arbitrer entre son fonds euro et son livret A?
Ça dépend si tu es en train de regarder sur le court terme ou le long terme. J'ai eu une discussion avec le numéro 2 de Tobam ce matin qui a rencontré un de ses amis et cet ami-là est marié avec une femme américaine. Ils sont nés la même année. Et quand ils sont nés, chacun de ces deux-là, la parent de l'américaine a acheté 20 000 euros d'actions. Les grands-parents du français ont mis l'équivalent de 20 000 euros dans un livret A. Alors, la très très bonne nouvelle, c'est que maintenant les 20 000 euros sont un tout petit peu inférieurs à 30 000 euros. Donc, ça a monté, c'est super. On est passé de 20 000 à 30 000 en 30 ans. Et l'américaine, ils ont mis 20 000 euros et maintenant il y a 470 000 euros. D'accord ? Donc, sur le long terme, le livret A, je ne vais pas dire que c'est de la merde, mais je le pense très fort quand même.
Moi, tu l'as dit quand même.
Merde, zut. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais c'est vraiment sur le long terme, c'est un instrument de court terme, le livret A.
Si donc, court terme, c'est...
Si tu as envie de te protéger parce que tu penses surtout à se casser la figure, tu peux t'amuser à acheter du livret A. Le livret A, c'est quelque chose qui... C'est un poison pour l'épargne et c'est un poison pour l'économie. Ça consiste à stériliser l'épargne des Français. Ça, c'est le grand problème de la France, c'est qu'on a stérilisé notre épargne.
Tout à fait. Ouais.
On l'a stérilisé. Au lieu de l'investir dans le travail des Français. Tu parlais tout à l'heure des actions qui sont le travail. Le livret A, c'est un poison pour l'économie française et c'est un poison pour l'épargne des Français. C'est un gadget dangereux et contre-productif. Donc, le livret A, sur le long terme, je parle. Sur le court terme, effectivement, si les actions baissent de 10%, le livret A, il ne baisse pas de 10%. Ok, juste rappeler le contraire.
Ouais.
Il l'a jamais fait. Aller sur le long terme, c'est le risque qui est rémunéré.
Toujours.
Ouais, toujours, c'est le risque qui est rémunéré. Il y a deux approches du risque. Celui qui dit ça peut marcher, donc je vais en prendre. Elle a dit, l'autre, celui qui dit ça peut se planter, donc j'en prends pas. Non. Il faut en prendre quand ça peut réussir ou se planter, mais il faut être diversifié.
Hein? On y revient.
Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu un peu à César.
À César. Encore une question sur les obligations. On en a parlé un tout peu. C'est quoi la place, c'est Dominique qui veut savoir ça, c'est quoi la place des obligations dans un environnement comme celui qu'on vit actuellement?
Alors la mauvaise nouvelle pour les obligations, c'est que si l'inflation monte, il ne faut pas acheter d'obligations. Et si les banquiers centraux montent leur taux, il ne faut pas acheter d'obligations non plus. Hein. Une obligation, hein, tu sais que son prix baisse quand les taux montent.
Bien sûr.
Voilà. Donc, si les taux montent, il ne faut pas acheter d'obligations. Puis si c'est de l'inflation, il ne faut pas acheter d'obligations. L'obligation synthétique, d'une certaine manière, c'est un livret A. L'obligation d'État, je parle.
Ouais.
Hein. L'obligation qui paye le taux minimum. Une obligation d'État, c'est une obligation qui est sans risque à l'arrivée. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rêve.
Toujours.
Voilà. Donc, si tu achètes une obligation d'entreprise, une obligation à haut rendement, si tu prêtes à un État en prenant des risques, un État émergent,
ouais.
Là, tu peux avoir un rendement. Mais si tu prêtes à un État qui, a priori, ne fera pas défaut, qui n'a pas été détruit par la guerre, qui a une population vieillissante, tu fais en fait un placement qui n'a pas de sens.
Et pourquoi des gens le font dans ce cas-là?
En fait, de moins en moins.
Des institutionnels aussi.
Non, non, non. Aujourd'hui, ces dernières années, il n'y a plus qu'un seul investisseur qui fait ça. C'est qui?
La Banque centrale.
La Banque centrale. Il n'y a plus que lui. Hein, la Banque centrale a acheté. Les banques centrales ont acheté plus d'obligations que les États n'en ont émis pendant la crise.
Comment c'est possible? Elles ont acheté du stock.
Ah oui, les autres ont vendu.
Ah oui.
Les autres ont
magnifique. Vendu. Donc, on libère les bilans.
Voilà, tout à fait. Donc, les obligations, c'est comme le livret A, hein, l'obligation sans risque. Hein, c'est un truc qui n'a. D'ailleurs, aux États-Unis, dans les pays qui sont développés au niveau financier, les grands fonds de pension n'ont pratiquement pas d'emprunt d'État.
Ouais.
Hein, ils n'ont pas d'emprunt d'État. Hein, pourquoi? Parce que d'emprunt d'État américain, ils en ont très très peu. Ils vont avoir de l'émergent, ils vont avoir du high yield, des obligations en rendement, mais l'emprunt d'État n'est pas un investissement. Investir, c'est prendre des risques.
Ça, c'est intéressant.
Voilà.
Investir, c'est prendre des risques. Et du coup, c'est une belle conclusion. Je vais voir s'il y a encore une question d'un sujet qu'on n'aurait pas traité. C'est encore le moment de nous les envoyer si vous en avez une. Alors, Thibaut. Je vais prendre la question de Thibaut qui est la dernière. Donc, on est d'accord que les gagnants d'une période d'inflation comme maintenant, ce sont les entrepreneurs. Y a-t-il des secteurs, du coup, qu'il faut privilégier ou que toi, tu privilégies?
Si l'inflation, effectivement, si on va un peu dans le scénario de Tobin, à savoir que
l'inflation durable,
l'inflation ne retourne pas de manière durable à 0 ou à 2. En fait, dès que tu n'as pas du cash, tu t'en fous.
Voilà. Encore une fois.
Voilà. Alors, le problème, hein, c'est de l'être humain moyen, hein, c'est qu'il a un salaire. Si j'ose dire. Et que le salaire, c'est du cash différé.
Oui.
Et donc, effectivement, les salariés, ils sont exposés au risque inflationniste s'ils n'arrivent pas à faire en sorte que leur travail justifie une forme d'indexation. Il n'y aura jamais d'indexation réelle des salaires au prix. C'est pas possible,
oui.
Parce que les poches des entreprises ne sont pas infinies.
Bien sûr.
Hein, si elles doivent payer plus ces salariés, il faut qu'elles gagnent plus.
Oui.
Hein, donc, si effectivement les entreprises arrivent à répercuter l'inflation à leur prix, tôt ou tard, il y aura une sorte d'alignement, d'indexation avec un retard, etc., qui va se passer. Mais au niveau des placements, le problème de l'inflation, c'est la monnaie. C'est tout. Celui qui subit l'inflation, c'est la monnaie. Donc, une fois que tu n'es pas exposé à la monnaie directement, le risque, il est assez limité.
Tu as quand même parlé d'un secteur tout à l'heure, c'est le secteur de tout ce qui touche au minage crypto, ou tout ce qui touche à l'écosystème crypto. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu regardes comme ça, que tu trouves particulièrement prometteur?
Le secteur du minage crypto, il est particulièrement prometteur parce qu'il est extrêmement diversifiant par rapport aux autres secteurs. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont extrêmement diversifiants?
Est-ce que la tech, par exemple, au sens large, c'est quelque chose que tu regardes?
La tech, c'est génial. Le problème, c'est la taille des paris. Il faut avoir de la tech. Est-ce qu'il faut en avoir autant que les indices américains en ont, je ne sais pas.
Il y a du Tesla quand même dans le S&P 500. Il y a...
mais non, mais c'est très bien. Il y a du Tesla, il y a,
il y a Google, les, Facebook.
Jamais l'indice capipondéré américain n'a été aussi concentré qu'en début d'année.
Ouais.
Jamais dans son histoire. Aujourd'hui, tu prends 1% des valeurs du S&P 500 et il a le même poids dans l'indice que 70% des valeurs.
Ouais, c'est incroyable.
Donc, c'est une concentration énormissime. Hein, cette concentration, elle a été alimentée par la bulle qu'ont générée les banques centrales. Pourquoi je dis que les banques centrales ont généré une bulle ? C'est quoi une bulle ? Une bulle, c'est un moment, un instant où les prix ne sont juste pas justifiés par des fondamentaux. C'est ça, une bulle. Hein, puis quand les prix ne sont pas alignés aux fondamentaux, un jour ou l'autre, ils s'alignent. Et la bulle explose. La bulle explose. Voilà. Hein, pourquoi les prix s'alignent aux fondamentaux ? Parce que les investisseurs cherchent à faire des profits.
Bien sûr.
Donc, quand quelque chose est cher, ils le vendent. Et quand quelque chose n'est pas cher, ils l'achètent. Hein, quand quelque chose est loin des fondamentaux vers le haut, ils vont le vendre. Ça va coller vers les fondamentaux. Et quand il est loin des fondamentaux vers le bas, ils l'achètent et ça va coller au fond. Donc, c'est ce qu'on appelle les investisseurs rationnels. Les investisseurs qui recherchent à faire des profits. Alors, malheureusement, il y a des gens qui interviennent dans le marché qui ne sont pas des investisseurs rationnels. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire des profits. Hein, le plus grand d'entre eux, évidemment, c'est la banque centrale. La banque centrale ne cherche pas à intervenir dans les marchés pour faire des profits. Elle crée des bulles.
Pile l'aider, en fait.
Hein, si la République française arrivait à emprunter à des taux négatifs, ça ne pouvait pas être justifié par des fondamentaux. C'était un état de bulle.
Oui, complètement. Ouais.
Hein, et donc, ça, quand tu crées cet état de bulle, effectivement, tu crées un potentiel pour une crise, pour un éclatement de la bulle dont on a vu le début. Depuis le début de l'année. Quoi.
Mais on n'est pas encore au bout.
Ça, je n'ai pas de boule de cristal.
Bien sûr.
Je ne sais pas te le dire.
Mais tu as vu, ça fait 30 ans que tu es sur les marchés, donc tu as vu quand même pas mal de crises.
Bon, je pense qu'effectivement, c'est vraiment... Les marchés ont été très entre les mains des banquiers centraux. C'est pour ça qu'ils sont si peu efficients, les marchés, parce que l'agent irrationnel a eu un poids énorme sur l'évolution du marché. Et effectivement, on voit que ça continue et que là, c'est un peu entre les mains des banquiers centraux que les choses se passent. Si effectivement les banquiers centraux continuent à montrer de la détermination, eh ben, le marché devrait baisser. Hein, mais de combien ? Combien de temps ils vont tenir ? Quand c'est que va venir la récession ? Quand c'est qu'ils vont lâcher ? Dans l'histoire, ils ont toujours lâché. Hein. Donc, peut-être que cette fois-ci, ce sera différent, mais je ne pense pas.
Ok. Bon, c'est plutôt... C'est plutôt difficile, du coup, hein, comme environnement dans lequel on est. Mais on va conclure sur ça, quand même, parce que tu as donné énormément de clés, je trouve, et tu as amené notamment ton point sur la diversification qui est la valeur de travail, qui remettent quand même de la rationalité dans un marché qui est un peu parti en vrille. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous propose maintenant de choisir le sujet du prochain talk, parce qu'on ne s'arrête pas là, c'est le 12e talk. Mais on va en faire un 13e et on va en faire beaucoup d'autres. C'est inflationniste, peut-être qu'on en fera deux par mois bientôt. Qui sait ? On a trois sujets à vous proposer. Vous allez pouvoir voter, je crois, dès maintenant déjà. Le premier sujet, c'est tout ce qui touche à l'investissement green, l'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est un secteur d'avenir ? Est-ce qu'il faut investir là-dedans ? Quel est le rôle de ce secteur à l'avenir ? Deuxième sujet, c'est investir en couple. Comment on investit dans un foyer ? Qui fait quoi ? Comment on se répartit les rôles ? Est-ce qu'on investit à hauteur équivalente ? Donc pour ça, chacun de ces sujets, on invitera un expert évidemment pour venir nous apporter ou une experte pour nous apporter son regard. Et enfin, le dernier sujet, c'est quel futur pour l'immobilier ? Bon, Yves t'a donné quelques indices, mais est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui émergent ? Est-ce que l'immobilier, c'est toujours un si bon pari que ça ? Est-ce que peut-être que les Français vont arrêter d'acheter leur résidence principale pour devenir des investisseurs actions passionnés ? Qui sait ? Donc, vous pouvez voter pour le sujet. On se basera sur ces résultats pour définir le thème et donc l'invité. Et Yves, évidemment, je voulais aussi te remercier. Ça fait plus de 70 minutes qu'on déblatère. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère aussi que Yves t'a passé un bon moment.
J'ai passé un excellent moment.
Et écoute, moi aussi.
Merci Mounir de m'avoir invité.
Ben, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ce que vous avez fait, c'est vraiment génial.
Bah écoutez, si vous ne connaissez pas encore Finari, du coup, inscrivez-vous, finari.com ou l'application mobile. Si vous ne connaissez pas Tobam, allez voir le site. D'ailleurs, est-ce que tu peux raconter l'histoire de de l'astérisque dans...
tu t'es bien documenté, dis donc. Effectivement, le sigle de TOBAM, TOBAM, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. L'idée de Think Out of the Box Asset Management, c'est de se dire que bon, si tu ne sais pas prévoir, il faut être diversifié, il ne faut pas acheter l'indice. Et effectivement, le sigle de TOBAM termine par un astérisque. Alors, pourquoi on a un astérisque à la fin de notre sigle? Alors, certains d'entre vous, les plus geeks, connaissent ce qu'on appelle les codes ASCII. Hein? Et le code ASCII de l'astérisque, c'est quoi?
42.
Ah, 42. Le code ASCII de l'astérisque, c'est 42. Et 42, c'est quoi? Ben, c'est la réponse, la question ultime, hein, sur l'univers, le temps, la vie. Et la réponse ultime de TOBAM à toutes ces questions, c'est « diversifiez-vous ».
Toujours. On sent que c'est un sujet qui t'a travaillé quand même. Voilà. Bah, écoute, merci Yves. Merci pour ta participation. N'oubliez pas qu'on a aussi, pour un sujet beaucoup plus terre-à-terre, un code promo sur ce talk. Donc, si vous voulez profiter de Finari, vous avez le code promo FinariTalk12. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été si nombreux. On se retrouve dans un mois pour un nouveau talk sur le sujet qui aura récolté le plus de votes. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très vite. Salut Yves.
Merci Mounir. Au revoir. Au revoir à tous.
Et voilà, cet épisode de Finari Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses? Rejoignez-nous sur notre communauté community.finari.com. Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari Plus. Alors à bientôt !